Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui résume et analyse l'actualité et les shows de la WWE et plus particulièrement de Monday Night Raw. Je suis Giscal, vous m'avez reconnu et je suis accompagné cette semaine de deux personnes. Et oui, après un retour en fanfare, après le Royal Rumble et des analyses enchaînées avec Irem, puis avec Ringside, puis avec Chris, eh bien, il semblerait que j'ai épuisé tout le vivier de chroniqueurs de Catch-Up, puisque me voilà seul pour cette review cette semaine, exceptionnellement, un run solo. Mes coéquipiers me laissent tenir la barre et me font confiance pour reviewer cet épisode du 17 février. Écoutez, j'espère que cette petite expérience vous plaira. Autant qu'elle a plu ou pas, on va voir aux spectateurs qui s'étaient déplacés à Everett dans l'état de Washington, donc ce lundi 17 février, avec un show qui s'ouvre avec Randy Orton, le top heel en forme de Monday Night Raw. On en parle depuis maintenant quelques semaines et ses agressions répétées contre Edge, puis contre Matt Hardy. Donc Randy Orton qui arrive cette semaine, et donc bah forcément on revoit des images de ce qui s'est passé avec le concerto sur Matt Hardy, qui l'avait laissé quasi pour mort la semaine dernière. Donc voilà, Randy Orton qui arrive et qui nous explique que ce soir il était censé affronter Matt Hardy dans un street fight, mais que bien évidemment, ce match n'aura pas lieu, puisque, vous voyez, regardez ce que je lui ai fait la semaine dernière. Il ne serait pas raisonnable pour Matt Hardy de venir l'affronter, que les docteurs, bien évidemment, ne vont pas le clearer, hein, donc lui donner son certificat médical. Et là-dessus, Randy Orton est interrompu par la musique de Matt Hardy malgré l'avis des docteurs qui arrivent et qui se traînent avec sa Minerve jusqu'aux abords du ring. Il se traîne, il explique que il en a rien à foutre de l'avis des docteurs, que il fera pas il va pas se coucher aussi facilement que ça. Il veut savoir pourquoi est-ce que Randy Orton, qu'est-ce qui ne va pas avec Randy Orton? What is wrong with you? C'est la question qu'il lui avait posée la semaine dernière avant de se prendre à RKO. Il lui repose, il dit il partira pas tant qu'il saura pas pourquoi est-ce qu'il a tenté ou réussi, on ne sait pas encore, à priver Edge de sa deuxième chance de finir sa carrière selon son bon vouloir. Donc voilà, Matt Hardy qui ne partira pas et qui ne se couchera pas tant qu'il n'aura pas cette réponse. Donc on se doute que ça va assez mal finir pour Matt Hardy, qui arrive avec sa Minerve un peu claudiquant là dans le ring. Randy Orton qui le regarde et puis qui lui dit « Ah, t'as des couilles, hein, Matt. Ouais, ça, je pourrais pas te l'enlever. T'as des balls. Mais bon, t'aurais dû te barrer la semaine dernière, et là, encore une fois, t'aurais dû t'en aller. Pourquoi tu reviens? Tu cherches un peu la merde. C'est un petit peu ça. Hein, donc il lui dit, par contre, écoute, je peux pas te donner de réponse, tu peux pas comprendre pourquoi je l'ai fait. Et là, Randy Orton qui part dans un discours un peu particulier, puisqu'il va commencer à expliquer, écoute Matt, que crois-le ou non, mais je te respecte énormément. Et je t'ai toujours respecté, tout ce que t'as fait pour le business. Et sache que Edge, c'est même encore pire, enfin, encore mieux. C'est, non seulement je le respecte, mais en plus, je l'aime comme un frère. Donc tu peux pas comprendre. Et donc il lui dit, je suis désolé. Et il part. Donc c'est vrai que là, on a un Randy Orton qui nous fait un peu un 180. Donc voilà, après avoir agressé Edge, agressé Matt Hardy, le voilà qui s'excuse et qui dit qu'il les respecte. Donc on avoue être un peu perplexe, le public d'ailleurs est un petit peu perplexe, Matt Hardy aussi. Randy Orton qui s'en va, sa musique qui retentit, bon, on se dit c'est terminé. Et là, alors soit Matt a un instinct exceptionnel, soit c'est assez mal fichu, mais il se trouve que pendant que Randy Orton remonte la rampe vers le titantron avec sa musique, Matt Hardy qui sort du ring et qui va chercher une chaise comme s'il savait qu'il allait se passer quelque chose. Peut-être que Randy Orton le voit aller chercher sa chaise sur le titantron, alors du coup il se retourne, il enlève son petit hoodie, et il retourne vers le ring, Donc là, on se dit, ça y est, Matt va prendre sa raclée. Matt Hardy qui tente d'attaquer Randy Orton avec la chaise. Randy Orton qui évite et qui prend l'avantage. RKO. Et Matt Hardy qui se retrouve au sol à la merci de la vipère. La vipère qui, du coup, va aller chercher à nouveau des chaises. Tise un concerto, encore une fois, en enlevant soigneusement, machinalement, la Minerve de Matt Hardy. Tise un RKO et finalement se ravise pour aller faire bien pire, puisqu'il va finalement porter un concerto modifié sur les escaliers en acier aux abords du ring. Un concerto donc terrible, alors voilà, on a les plans dans le public, des enfants, des femmes qui se tiennent la tête à deux mains. C'est horrible, Randy Orton est un boucher, une ordure, et ça ne lui suffira d'ailleurs pas, puisqu'il va emporter un deuxième, alors que les équipes qui allaient arriver avec une civière. Bon, voilà, alors deux choses, Matt Hardy n'a pas d'amis déjà, c'est une première chose, puisque personne n'a jugé bon de sortir aider la légende du ring. Et puis Matt Hardy, là, pour le coup, s'il se prend un concerto la semaine dernière et qu'il finit en Minerve, pas clairé par les docteurs, là, je pense que deux concertos écrasés, la tête écrasée contre les escaliers, je pense que c'est terminé. On en avait parlé avec Chris la semaine dernière. Je pense que, voilà, là, Matt Hardy, c'est le champ du cygne, son contrat qui se terminait au 1er mars. Voilà, donc une dernière manière d'user, de presser le personnage de Matt Hardy pour avoir un petit peu de hit sur Randy Orton. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fonctionne. Hein, le public sifflait copieusement Randy Orton. Encore une fois, mission réussie. Et un développement scénaristique quand même, puisque voilà... Randy Orton, ça semble un peu complexe dans sa tête, hein, comme souvent. Team Song, hein, j'entends des voix dans ma tête. On sait pas trop combien ils sont, mais en tout cas, c'est pas très très clair et c'est plutôt intéressant. Randy Orton qui semblerait peut-être prendre le chemin de... et voilà, il dit « Je vous respecte les gars, et puis j'aime Edge. » Est-ce que ça pourrait pas déboucher sur une sorte de truc assez gris en disant, voilà, c'est ma façon à moi de vous protéger de vous-même, quoi, entre guillemets. Matt Hardy, Edge, vous êtes des têtes brûlées, vous savez pas quand est-ce qu'il faut vous arrêter. Votre corps vous a déjà dit stop et vous essayez de vous obstiner. Moi, je suis un petit peu là pour vous montrer la porte de sortie à ma manière. Hein, c'est l'amour vache. Donc ce serait assez intéressant de voir une confrontation. Au micro, Randy Orton Edge avec un couplet de ce style-là, finalement. Hein. Randy Orton qui va dire de manière complètement illusoire Edge, voilà, j'essaie de te protéger contre toi-même en te cartant du ring moi-même. Tu veux pas le faire toi-même, donc pourquoi pas. En tout cas, voilà, la transition Matt Hardy semble. Et maintenant, on va se diriger vers sans doute un retour de Edge pour savoir un petit peu ce qu'il en est avec Randy Orton. Moi personnellement assez intéressé par ce développement. On va continuer avec Aleister Black qui continue d'avoir des matchs à Raw, qui continue d'avoir de l'exposition télé, du temps d'antenne et des matchs. Et on l'a dit, on attendait une progression pour Aleister Black, et force est de constater qu'on l'a, hein, puisqu'après deux semaines de jobber, il me semble, puis un squash d'Akira Tozawa, donc un mec un peu plus confirmé, on s'attendait à ce qu'il affronte peut-être un costaud. Comme on l'avait évoqué, c'est Eric Rowan qui va s'y coller, un choix d'adversaire assez intelligent. Eric Rowan, sans direction depuis quelques temps, avec sa cage... C'est pas trop ce qu'il a dans sa cage, mais à la limite on s'en fout. Mais qui jouissait quand même d'un build avant la draft à SmackDown de gros costaud. Donc c'est, mine de rien, dans l'inconscient collectif, un adversaire déjà un peu plus sérieux. Et d'ailleurs, ça se ressent dans le match, puisque Aleister Black mettra quand même plus de 7 minutes à se débarrasser d'Eric Rowan dans un match assez accroché et assez bien booké, j'ai trouvé, puisque Eric Rowan. prend assez vite l'avantage, tant sur le physique que sur la vitesse. Donc, ils n'oublient pas quand même de protéger un petit peu le big man dans cette affaire, puisqu'il fait un match assez impressionnant. Il arrive à matcher un peu Aleister Black sur le côté vitesse. Domination bon, d'Eric Rowan jusqu'à l'inévitable comeback d'Aleister Black, qui va placer, en contrant le close slam d'Eric Rowan, qui va placer son Black Mass, puis un deuxième, parce qu'il en faut deux pour coucher Eric Rowan. Et donc une victoire convaincante, une victoire qui va dans le bon sens pour Aleister Black et qui, voilà, qui continue sa lente progression vers, qui sait, un titre secondaire peut-être pour Aleister Black. En tout cas, voilà, il est sur la pente ascendante, les bookers nous écoutent, les matchs sont de plus en plus solides, de plus en plus sérieux, de plus en plus longs. Voilà, maintenant, quel sera le prochain adversaire d'Aleister Black la semaine prochaine, on ne sait pas, à vos pronostics, mais en tout cas, moi je suis plutôt content de voir que ça va dans le bon sens pour Aleister Black. Une autre personne pour qui ça va dans le bon sens cette semaine, c'est Charlotte. Charlotte qui, pour ceux qui ont regardé, et d'ailleurs pour ceux qui ont regardé et pour ceux qui ont écouté la super analyse proposée par mes compères de NXT TakeOver Portland ce week-end, Portland, Oregon. NXT de grande, grande qualité et qui a notamment vu la victoire de Rhea Ripley pour le titre féminin de NXT contre Bianca Belair dans un match très, très sympa. Mais qui s'est surtout terminé sur une invasion de Charlotte à NXT pendant le pay-per-view. Charlotte qui est venue agresser Rhea Ripley juste après son match, lui porter un petit Natural Selection, petite promo avec un mic drop au centre du ring. Et d'ailleurs, elle en a profité également pour coller une petite tarte à Bianca Belair sur le chemin, ce qui était assez intéressant en vue peut-être d'un match de transition, peut-être avec Bianca Belair d'ici à WrestleMania. Donc voilà, Charlotte, en tout cas, forte de ce passage à NXT TakeOver, venait à Raw pour nous faire une petite promo de confirmation de ce qu'elle avait pu dire 24 heures auparavant. Donc voilà, elle explique, hein, donc elle montre les images à la foule de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a fait dimanche. Elle dit que, elle voulait se déplacer elle-même pour voir un petit peu pourquoi en fait Rhea Ripley pensait qu'elle pouvait challenger la reine Charlotte, la Queen. Donc elle avait été impressionnée, voilà, de voir Rhea en vrai, et elle trouvait qu'en effet c'était une adversaire valeureuse. Mais par contre, ce qu'elle n'aime pas trop dans cette affaire, c'est qu'elle trouve que les stars d'NXT d'aujourd'hui, donc là elle englobe aussi Bianca Belair, elle les trouve un petit peu entitled, donc comment est-ce qu'on pourrait traduire ça, on va dire que les jeunes maintenant de nos jours pensent que tout leur est dû, qu'ils n'ont pas besoin de se battre pour mériter quoi que ce soit. Et donc elle explique que quand elle était à NXT de son temps, elle a dû gratter, batailler, souffrir, suer pour gagner le respect qu'elle a aujourd'hui. Et c'est elle qui a un petit peu, mine de rien, mis NXT là où elle est aujourd'hui, là où la brand est aujourd'hui. Donc Rhea Ripley devrait s'incliner, on va dire, hein, et reconnaître que Charlotte elle doit tout son succès actuel à Charlotte, puisque c'est finalement Charlotte qui a mis ce titre on the map, hein, sur la carte. Donc voilà, Rhea Ripley, elle est forte, mais elle est un peu trop fière, et Charlotte va lui apprendre une leçon d'humilité et de sagesse. Faut savoir, les nouveaux, sachez un petit peu où est votre place. C'est un petit peu ça qu'explique Charlotte. Bon, écoutez, promo classique, promo old school, Charlotte tient bien le micro, Charlotte a du charisme, elle tire la foule. Promo, tu sens, de vétéran, qui ne fait pas forcément avancer le schmilblick. On s'attendait peut-être à une petite incursion, quand même, une petite intervention de Rhea Ripley à Raw pour répondre à la reine. Il n'en est rien. Bon, voilà, écoute, Du coup, on peut pas vraiment dire qu'il se soit passé grand-chose à Raw cette semaine. Le gros événement était plutôt à TakeOver. Charlotte qui entretient un petit peu les braises tout en gardant, en englobant quand même un petit peu Bianca Belair dans sa promo, en parlant un petit peu au pluriel, hein, les stars de NXT qui sont un petit peu trop sûres d'elle. Le fait que Bianca soit dans le mix, je trouve ça assez sympa, parce que Bianca Belair, pour moi, fait partie des filles à NXT qui ont clairement le potentiel package pour prétendre à une montée prochaine, peut-être après WrestleMania, en termes de charisme, en termes d'athlétisme, de moveset. C'est une fille qui est vraiment très intéressante, qui a un personnage qu'elle tient bien. Donc c'est vrai, de me dire qu'elle va peut-être prendre part à la rivalité et peut-être pourquoi pas proposer à Charlotte un petit match de transition d'ici au match qui d'ailleurs a été officialisé à WrestleMania, hein, Rhea Ripley affrontera Charlotte, moi ça me plaît bien, donc c'est plutôt cet aspect là qui me plaît. Après, bon, la promo n'a pas énormément fait bouger les lignes cette semaine, on peut le dire. Un truc qui n'a clairement pas fait bouger les lignes non plus, d'ailleurs on va passer dessus rapidement, mais sachez que nous avions un match pour le titre 24-7, encore une fois cette semaine. Alors c'est devenu une nouveauté, nous avons des matchs pour le titre 24-7 maintenant à Raw, et c'était un triple threat. Alors les commentateurs étaient très contents de préciser que c'était la première fois de l'histoire du titre qu'il était défendu dans un triple threat. En même temps, c'est super compliqué, parce que pour l'instant il n'a pas été défendu dans beaucoup de matchs officiels. Et voilà, R-Truth affrontait Mojo Rawley et le champion Riddick Moss. Petite brawl d'une minute et petit paquet de Riddick Moss qui se barre dans la foule. Mojo Rawley qui engueule un peu R-Truth en disant que voilà, c'était de sa faute s'il avait perdu. Et R-Truth qui en profite pour lui mettre un coup dans le bide, puis suivi d'un scissor kick là, son finisher. Donc voilà, le pauvre Mojo Rawley est ridicule par tout le monde. Eh ben écoute, ok, hein, allez, passons, je suis pas sûr que ça intéresse grand monde. C'est un peu étrange. Finalement, Mojo Rawley, on lui a mis un sous-fifre, on lui a mis le titre, et puis finalement, deux semaines plus tard, c'est le dindon de la farce, il est les quatre fers en l'air au milieu du ring, on sait pas trop ce qu'il cherchait à faire avec lui. Mais avançons avec l'homme en forme, l'homme qui fait se pâmer les femmes dans le public, Drew McIntyre, le futur challenger à Brock Lesnar, Drew McIntyre qui arrive, qui prend le micro, qui a un magnifique t-shirt sans manches à l'effigie de sa propre personne, magnifique. Drew McIntyre, donc voilà, qui nous explique que nous sommes à 48 jours de WrestleMania. Alors Charlotte est déjà venue quelques minutes avant pointer le signe de WrestleMania, mais bon, écoute, c'est pas parce qu'elle l'a déjà fait qu'il a pas le droit de le faire, donc il va même lui inviter la foule à le faire avec lui, donc c'est assez drôle. Il a dit, bah voilà les gars, allez, on va le faire tous ensemble, et on va utiliser le Claymore Countdown pour le faire, donc le 3-2-1, qui pousse, hein, qui pousse, on sent que ce 3-2-1 Claymore, là, c'est un truc qui est en train de bien prendre avec le public. Donc voilà, faire 3, 2, 1, boom! Et il pointe vers le signe avec toute la foule. Bon, petit plan sympa. Il enchaîne avec promo de Top Face, hein, avec de la catchphrase. En veux-tu, en voilà. Donc il explique que Suplex City va nous donner une petite leçon de géographie. Puisqu'il faut savoir que Suplex City, si vous ne le saviez pas, est localisé dans Claymore Country. Et oui. C'est intéressant de le savoir, puisque ça va lui permettre d'envahir et de démolir Suplex City, et ainsi de gagner le titre. Bon, pas forcément compris tous les parallèles, mais bon, ok. Soit, et on a Poleman qui arrive, qui s'introduit, hein, en tant qu'avocat de la bête, champion Brock Lesnar. Et il présente Brock Lesnar, c'est un teasing classique à la Poleman, puisque Brock Lesnar n'est bien évidemment pas là. Alors voilà, Brock, il explique Poleman, hein, il continue, voilà, il est très fier de son coup, avec son petit sourire narquois, puis il explique que voilà, Brock Lesnar va va bien évidemment défoncer Ricky la belle vie Ricochet à Super Showdown et qu'ensuite il ne fera qu'une bouchée de Drew McIntyre à WrestleMania. Bon, ok. Drew McIntyre qui dit que, bah, écoute, Paul Heyman, tu peux répéter le nom de Brock Lesnar autant que tu veux. Ça changera pas le fait que moi Drew McIntyre, je vais lui kick his head off, donc je vais le décapiter, je vais lui foutre un coup de pied dans la tronche à WrestleMania, grosso modo. Donc du coup, cette promo qui ne va nulle part fait qu'au bout d'un moment, Paul nous explique qu'en fait il est pas là pour débattre. Et que d'ailleurs il est pas là pour débattre et que il veut pas se fâcher avec Drew McIntyre. Hein. Drew McIntyre, il est même plutôt fan de Drew McIntyre. Par contre, il connaît quelqu'un qui n'est pas très très fan de Drew McIntyre et il l'introduit. Et c'est la musique de MVP. MVP qui retentit et MVP qui arrive en tenue de catcher. D'accord, donc c'est vrai que on pensait que MVP avait catché son dernier match contre Rey Mysterio il y a de ça 2 ou 3 semaines, je ne sais plus. Et qu'il allait probablement se diriger vers un rôle backstage. Il avait d'ailleurs confirmé que c'était son dernier match à la WWE. Bon, bah écoutez, sans doute une des retraites les plus courtes de l'histoire, puisque 2 semaines plus tard, le revoilà en combinaison. Et donc bon, il prend le micro, il nous fait une petite promo, il dit écoute, la semaine dernière dans le VIP Lounge, ce que tu m'as fait c'était un cheap shot, et ce soir je vais te whoop ton postérieur. Bien évidemment, on n'y croit pas 2 secondes, mais bon. Ça nous emmène quand même vers un match. Drew McIntyre, MVP. L'arbitre sonne la cloche. Non, pas tout à fait, puisque MVP, cheap shot, justement, rend la monnaie de sa pièce à Drew McIntyre, puisqu'il attaque avec le micro Drew McIntyre juste avant que la cloche sonne. Donc il en profite, il lui met une big boot, 2-3 patates dans la tronche pour le ramollir, là, un petit peu. Et puis il dit à l'arbitre, vas-y, sonne la cloche, sonne la cloche. Sauf que bon, il en fallait quand même un petit peu plus pour sécher le challenger au titre WWE. Donc à peine la cloche retentit que Drew McIntyre colle un futur choc DDT, une claymore, terminé, bonsoir, un squash. Donc MVP cette fois, écoute, j'espère que c'est pour de bon. Toujours est-il que voilà, encore une petite victoire, un petit show de Drew McIntyre. Personnellement, j'ai été assez déçu de cette passe d'armes avec Paul Heyman. Autant j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le VIP Lounge de la semaine dernière parce que j'ai trouvé que c'était une belle vitrine de ce que le Drew McIntyre QV 2020 pouvait être. De l'assurance au micro, un certain charisme, à la fois populaire. Auprès de la foule, efficace dans le ring, impressionnant, c'était assez sympa. Bon, vous me direz, c'est sensiblement la même chose cette semaine, mais j'ai trouvé qu'il était assez vite rentré quand même dans le stéréotype, dans l'archétype de la promo du babyface qui n'a pas grand-chose à dire. Hein. C'était un peu, moi je vais te buter, je suis le plus fort, et puis basta, bon. Bon, voilà, ça manquait peut-être un petit peu, on va dire, d'originalité et de punchline qui sonnait juste à mon goût. Toujours est-il que le public est à fond derrière Drew McIntyre, boit ses paroles et scande son nom à la moindre occasion, hurle le Claymore et le 3-2-1 Claymore dès qu'il peut. Donc on peut difficilement dire que ce segment dans son ensemble est un échec, puisque voilà, la foule reste très convaincue. J'espère juste que voilà, ce genre de segment n'est pas forcément annonciateur de ce que Drew McIntyre pourrait devenir assez rapidement avec la ceinture, à savoir un face un peu générique qui n'a pas grand-chose à dire. J'espère que voilà, il pourra développer peut-être un petit peu plus que ça. Je trouvais que c'était un poil feignant quand même cette semaine, un peu une redite pour Drew McIntyre. On continue avec Becky Lynch. Becky Lynch qui essaie de savoir comment allait Becky Lynch après s'être fait mordre le cou jusqu'au sang par Shayna Baszler la semaine dernière. Donc Becky Lynch qui arrive feu tout flamme avec un sac en papier avec elle, donc on se demande bien ce qu'il peut y avoir là-dedans. Becky Lynch qui nous explique, donc voilà, fière irlandaise qui a grandi au Royaume-Uni, qui nous explique qu'elle était venue aux États-Unis pour vivre un peu le rêve américain, pour chercher la gloire, l'argent, les fans. Sauf que maintenant l'argent et la gloire, elle les a, et elle en a plus rien à foutre. Donc du coup, elle commence à balancer de l'argent, carrément, des 100 dollars de son sac en papier. Elle les balance sur le ring. C'est vrai qu'on comprend pas trop. Ce qu'elle nous fait, Becky. Mais elle nous explique en fait que cet argent qu'elle jette, c'est une avance. Une avance sur violence. Il va falloir clarifier un petit peu, s'il vous plaît. En fait, c'est une avance sur la caution qu'il va falloir payer une fois qu'elle aura réglé son compte à Shayna Baszler, parce que elle compte en fait tellement lui botter le cul qu'elle risque encore une fois, comme l'année dernière avec Ronda aussi, de se faire incarcérer par la police. Et donc il va encore y avoir une caution à payer. Donc elle se prend même pas la tête, elle la paye tout de suite. Donc voilà, petite promo un peu badass du Steve Austin féminin de la WWE, qui après avoir conduit sa propre ambulance pour aller à l'hôpital la semaine dernière, maintenant carrément prépaye sa caution. C'est assez sympa, même si le segment était bizarrement fichu, parce que pendant 10 à 20, 20, 25 secondes, on ne comprenait pas trop ce qu'elle voulait nous raconter. Elle continue un petit peu avec sa promo en disant que il n'y a que les animaux qui attaquent la gorge, enfin le cou de leur proie pour les affaiblir, sauf que elle, c'est pas une proie, c'est une chasseuse. Elle a défoncé toute la division féminine, et c'est certainement pas Shayna qui va lui apprendre la vie. Shayna Baszler qui, trop heureuse de voir la championne se mettre dans tous ses états, apparaît sur le grand écran du stade. Et puis elle nous explique que ça tombe très très bien que Becky Lynch veuille en découdre avec elle, puisque écoute, il se trouve que Shayna Baszler a été annoncée un petit peu plus tôt dans l'émission comme étant participante à l'Elimination Chamber des femmes. Il va y avoir une Elimination Chamber cette année féminine, encore une fois, mais cette fois pour la place de number one contender du titre féminin de Raw. D'ailleurs, les participantes ont été annoncées, donc c'est Shayna Baszler, Asuka, Ruby Riott, Natalia, Liv Morgan et Sarah Logan. Vous remarquerez que les trois du Riott Squad sont de la partie. Donc Shayna Baszler qui nous explique, écoute, ça tombe très bien, parce que cette année, je vais être dans l'Elimination Chamber, donc tu n'es pas sans savoir que les matchs en cage, ça me connaît, hein, wink, wink, wink. Écoute, je vais bien évidemment, difficilement traduisible également en français, mais je vais chew la compétition dans la chamber. Donc c'est chew, c'est mâcher un peu, c'est mordre, c'est manger, quoi, un peu la compétition. Donc évidemment, rapport à la semaine dernière. Et elle explique aussi, petite punchline, te mordre la semaine dernière, j'avais pas vraiment prévu de le faire. C'est venu un petit peu comme ça. Quand tu vois l'état dans lequel je t'ai laissé, alors que j'avais même pas prévu de le faire, imagine un petit peu ce que je vais pouvoir te faire quand une fois que j'aurai gagné le match et que je vais pouvoir planifier un petit peu mes actions. Le regard intense de Shayna Baszler et qui lui dit I'll tear the living shit out of you. Donc je vais te déchirer, grosso modo. Et puis là, ça sort les gros mots, donc tout de suite, forcément, c'est plus sérieux. La communication s'arrête là. Becky qui reprend le micro deux petites secondes pour dire écoute, ça tombe très bien que tu sois dans l'Elimination Chamber. Je regarderai le match attentivement et je serai pour toi. Becky Lynch veut que Shayna gagne l'Elimination Chamber pour l'affronter à WrestleMania. Donc voilà, les débats sont lancés. L'intensité monte d'un cran entre les deux femmes après cette incursion rocambolesque, sanglante de Shayna Baszler la semaine dernière. Becky Lynch qui, comme on le pressentait, tout feu, tout flamme, ne veut chose maintenant, c'est avoir Shayna Baszler en face d'elle pour la défoncer. Shayna Baszler qui a l'air, elle aussi, décidée à défoncer Becky Lynch. Bon, écoutez, moi, sur le papier, ça me plaît bien, si ce n'est que on est encore dans un cas à la Brock Lesnar, Drew McIntyre, où l'histoire est tellement lancée entre le challenger et le champion que ce qui se passe entre les deux, il n'y a plus de suspense, quoi. Enfin, évidemment que Shayna Baszler va gagner l'Elimination Chamber, de la même manière qu'évidemment que Brock Lesnar va gagner Super Showdown contre Ricochet. C'est vrai que les builds partent presque un petit peu de trop loin, trop fort, à mon goût. Et du coup, la road vers WrestleMania, elle va être sympa, hein, parce que les promos Shayna Baszler, les brawls qu'il va y avoir vont être cool. Mais finalement, l'Elimination Chamber, il n'y a pas de suspense. C'est un petit peu le regret que j'ai. On ne sème pas assez de graines, de faux plans, de pistes vers des possibles twists pour nous donner un petit peu envie de regarder le pay-per-view, quoi. Pour moi, aujourd'hui, rien ne donne spécialement envie de regarder l'Elimination Chamber des femmes, dans lesquelles il va y avoir les trois ex-membres du Riot Squad dont j'ai strictement rien à foutre, Natalia qui ne se bat pour rien, et Asuka qui vient de perdre deux fois de suite contre Becky Lynch. Donc il reste Shayna Baszler qui va évidemment gagner, parce que de toute façon le build est lancé. Donc je trouve que c'est à la fois sympa parce que voilà, l'excitation va monter crescendo, et en même temps un peu chiant parce que finalement on attend, vite, amenez-nous à WrestleMania, quoi. Les pay-per-view entre les deux, il va rien se passer, quoi. Donc voilà, dilemme. Dilemme également pour les couples de heel de la WWE. Angel Garza et Zelina Vega rencontraient en coulisses Bobby Lashley et Lana pour un Monday Night Double Date, puisque Lashley et Garza sont bookés ce soir pour affronter Humberto Carrillo et Rusev. Donc deux feux qui se croisent ce lundi. On ravive les braises de la feu de Rusev Lashley, bon, pour le meilleur ou pour le pire, je ne sais pas. Et on rajoute la feu de mexicaine dans le mix. Donc voilà, il y a eu une petite promo backstage, hein, Lana et Lashley qui étaient très contentes, hein, d'être associées à Zelina Vega et Angel Garza pour une double date. Donc Garza qui bien, enfin, ou c'est Vega d'ailleurs, je ne sais plus, mais en tout cas les deux tiennent bien à préciser que leur relation est strictement business. Une petite précision intéressante, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils essayent de cacher une sorte de relation, donc c'est vrai que on sent déjà les bases d'une peut-être possible bisbille quand Andrade va revenir de sa suspension, enfin en tout cas de sa blessure en kayfabe. Mais voilà, Angel Garza qui tient bien à préciser, hein, Zelina Vega, c'est sa business manager, que c'est strictement business, et que de toute façon, aucune femme, donc là il montre ses abdos, son corps de rêve, aucune femme ne peut tenir un homme comme lui. Et il en profite pour aussi dire qu'aucun homme ne peut se mesurer à lui, ce qui est un petit peu osé à dire en face de Bobby Lashley quand même, mais bon, écoute, juste avant de faire équipe avec lui, mais ok, d'ailleurs ça fait doucement sourire Bobby Lashley. On enchaînera dans la foulée sur le match, donc tag team, hein, Rusev Cario contre Lashley Garza. Un match de 9 minutes, ma foi plutôt sympa, encore une fois j'ai envie d'encenser le travail de Bobby Lashley, de match tag team comme la semaine dernière contre Cario. Un match voilà, très plaisant, avec un mix de lucha, un mix de match de big man, hein, entre Rusev et Lashley, quelques combinaisons parfois avec Rusev contre Garza qui était assez sympa à regarder, et in fine une victoire des heels puisque malgré le fait que Rousseff se débarrasse de Lashley, c'est finalement Garza qui avait été tagué juste avant, qui était le legal man, qui va en profiter pour se glisser derrière Rousseff et lui faire un petit paquet en lui attrapant le slip. Donc victoire des Hills sur une roublardise d'Angel Garza qui continue d'impressionner, de faire son trou. Une feu de croisée qui, on va pas se mentir, je suis difficilement emballé par le fait que Bobby Lashley et Rousseff recroisent le fer. Mais bon, je pense que c'était plus une affaire de distance, on va dire, qui d'une manière quand même assez intelligente, mais met un bon coup de projecteur sur, sur la rivalité Carrillo-Garza, puisque voilà, Bobby Lashley et Rousseff sont quand même des mecs beaucoup plus établis que les deux Mexicains. C'est une belle manière, je trouve, de mettre un petit coup de projo et d'impliquer la foule dans la rivalité des Mexicains. La promo d'avant-match était assez intéressante. Angel Garza qui se positionne comme toujours ce séducteur insaisissable, soi-disant, mais en même temps très sur la défensive quand il s'agit de parler de sa relation avec Vega. Donc c'est vrai que voilà, ça va être intéressant de suivre le retour d'Andrade. Carrillo qui reste toujours, qui lui aussi est assez impressionnant dans la défaite, parce que finalement c'est pas lui qui prend le pin, hein, ça c'est aussi important à souligner. Donc pour moi ça me plaît bien, je continue à prendre du plaisir à voir ces Mexicains virevolter et rouler les airs tous les lundis à Monday Night Raw. Et puis je trouve que cette mid-card d'Euro gagne en épaisseur et en intérêt avec l'ajout de Carrillo et Garza. Donc pour l'instant ça me plaît bien, ils font leur trou tranquillement, ils font leurs armes et ça promet. Il y a des bonnes petites choses à faire avec eux. Il y a des bonnes petites choses à faire aussi potentiellement dans la division féminine d'Euro, dans la mid-card de la division féminine d'Euro, sauf que on peut pas dire que les bookers soient forcément autant inspirés, puisque Natalia et Kairi Sane s'affrontaient cette semaine. Kairi Sane accompagnée d'Asuka, forcément. Natalia, Kairi Sane, donc, pour un match un petit peu pour du beurre, sauf qu'il faut quand même se dire que Natalia va participer à l'Elimination Chamber. Kairi Sane, non. Et pourtant, vous direz, c'est un match facile à booker. Hein. Natalia va peut-être prendre une victoire facile face à Kairi Sane. Il n'en est rien, puisque c'est la japonaise qui va finir par l'emporter sur un décompte à l'extérieur. Bon, donc Natalia est d'une certaine manière protégée, mais je ne vois vraiment pas l'intérêt de faire 5 minutes de match stérile pour finalement faire gagner Kairi Sane qui. N'a pas de programme tag team avec Asuka, n'est pas dans le match pour le prochain pay-per-view. Natalia passe un peu pour une andouille. Pour moi, on est vraiment sur des erreurs de booking un peu de débutant. Aucun intérêt. Voilà, c'est un petit peu dommage. Alors après, peut-être que vous me rétorquerez et vous n'aurez pas tort que. Qu'est-ce qu'on s'en fout, puisque de toute façon l'Elimination Chamber va être gagné par Shayna Baszler, je l'ai déjà dit plus tôt. J'aurais pas forcément tort. Mais voilà, je trouve que c'est dommage de faire des erreurs de booking de base comme ça. Natalia devrait remporter ce type de match. Ou à la limite ne devrait même pas être bookée dans ce type de match. Bon, bref, peu importe. Passons. Hein. On va enchaîner avec un autre segment micro. Il y en a eu pas mal de promos. Et c'est l'heure du sermon de Seth Rollins. Il y a une grande mise en scène avec un pupitre au centre du ring, des icônes de Seth Rollins sur les côtés, sur des chevalets, un peu en mode, comme sur son t-shirt, un peu en mode vitrail et d'église. Bon, voilà, on est clairement dans l'imagerie biblique. Christique de Seth Rollins, hein, c'est le Messie, il se pose clairement en chef de culte. Hein, il vient nous faire son sermon. Donc il explique que la semaine dernière, voilà, il a accompli la première partie de sa vision. Hein, il vient célébrer le progrès des années trop, parce que voilà, la semaine dernière, ils ont gagné leur 4v4 contre les gentils. Voilà, maintenant ils se sont débarrassés, enfin des gentils, il va pouvoir avancer dans sa vision, dans la vision qu'il a de Monday Night Raw, de faire rentrer Monday Night Raw dans le futur. Il continue à remercier ses disciples, à remercier le public de l'avoir accepté, de lui avoir donné ce rôle de messie. Il demande, donc le public qui évidemment voit clair dans son jeu, qui le siffle, alors il demande du respect. Il dit, écoutez, ça suffit, nous avons vaincu Joe, Owens et les Viking Raiders, ça devrait vous prouver que nous pouvons accomplir tout ce que nous disons pouvoir accomplir. Mais maintenant, c'est le dur labeur qui commence, ça ne va pas être facile, mais voilà, faites-moi confiance, je vais mener Raw vers le futur. Sermon d'un Seth Rollins toujours aussi efficace, hein, ce rôle complètement aveuglé par sa propre folie des grandeurs. Les Viking Raiders qui arrivent, toujours pas débarrassés d'eux, hein, les Viking Raiders qui arrivent, qui se ruent vers le ring pour une grande brawl, Seth Rollins et Murphy qui s'échappent. Les Viking Raiders donc qui se bataillent avec AOP. Et Rollins et Murphy qui tentent de s'échapper, sauf que Kevin Owens les attendait en haut de la rampe. Stunner de Kevin Owens sur... alors non, pas tout de suite, pardon. Du coup, Seth Rollins qui en bon chef de culte, renvoie Murphy se batailler dans le ring avec les Viking Raiders, parce que les Viking Raiders étaient en train de prendre l'ascendant sur AOP. Pendant ce temps-là, Seth Rollins justement la remonte la rampe et rencontre Kevin Owens dans son dos qui en profite pour lui mettre un stunner tandis que les Viking Raiders se débarrassent de Murphy et AOP dans le ring. Donc les face qui, comme souvent depuis un petit moment, ont l'avantage, on va dire, de l'intelligence, de la roublardise sur les segments hors match. C'est souvent un petit peu le cas, ils ont un coup d'avance sur Seth Rollins et les méchants quand il s'agit de leur tendre des embuscades de ce type-là. Mais par contre, dès que ça se passe entre les cordes, dès qu'il y a match, dès qu'il y a la cloche qui sonne, c'est plutôt les méchants qui tirent leur épingle du jeu. Donc on continue cet équilibre entre tout ce beau monde. Et puis d'ailleurs on va en profiter pour englober avec le main event puisque le main event était encore consacré cette semaine à cette histoire la semaine dernière on a vu un 4v4, la semaine d'avant je sais même plus, on a vu un 2v2 ou un 3v3, je sais plus, toujours est-il que là on va réavoir un nouveau 3v3, pas de Samoa Joe cette semaine, c'est Kevin Owens et les Viking Raiders contre Murphy et AOP avec Seth Rollins aux abords du ring. Je vais pas vous refaire l'histoire, hein. Rebelote, main event entre nouvelle combinaison entre ces 8 catchers, cette fois ils sont 6, et victoire des face sur disqualification, victoire sans en être une, puisque Kevin Owens va finir par... faire une pop-up powerbomb Buddy Murphy, puis un stunner, et c'est à ce moment-là que, alors que les Viking Raiders sont occupés avec AOP hors du ring après un suicide dive, le stunner donc de Kevin Owens et Seth Rollins qui arrivent, cassent le tombé pour empêcher son disciple de perdre, et qui provoque ainsi la disqualification. Et donc évidemment, après le match, les heels qui donc attaquent les gentils se débarrassent des Viking Raiders et qui donc se mettent à 4 contre 1 contre Kevin Owens au centre du ring. Donc on se dit Kevin Owens va passer un sale quart d'heure, il va prendre sa... sauf que c'était sans compter un rebondissement sans précédent puisque ce sont les Street Profits qui débarquent et qui font le sauvetage, qui sauvent donc Kevin Owens de son sort et qui débarrasse le ring. Les Viking Raiders, entre-temps, qui étaient revenus dans le mix, et donc Montez Ford et Angelo Dawkins, qui font place nette. Kevin Owens qui en profite pour placer un petit stunner sur un des deux AOP et les Babyface qui clôturent cette émission debout avec une nouvelle Profit qui arrive dans le mix. Bon, je pense que peu me contrediront pour dire que ce rebondissement n'est pas forcément l'issue qui va permettre de dire qu'on ne tourne pas un petit peu en rond avec tout ça. C'est vrai que là maintenant ça fait un bon moment que les semaines se suivent et se ressemblent, à savoir Kevin Owens, les Viking Raiders, Samoa Joe, pris dans cette histoire avec Murphy, cette relation et Hopi, fait des variations, des combinaisons, des tag teams, des triple threats, des 3 contre 3, des 4 contre 4. Ça se tape sur la tronche, il n'y a jamais d'enjeu, les ceintures sont pas mises en cause. Pas vraiment vers quoi on va en fait, et maintenant on rajoute les Street Profits là-dedans. On a annoncé entre temps, si vous avez suivi les réseaux, qu'à Super Showdown, Seth Rollins et Murphy, vont défendre leur ceinture contre les Street Profits. Soit, c'est tant mieux pour les Street Profits. C'est vrai que les Viking Raiders, ça fait des semaines que bataillent contre. Ils sont anciens champions, ils bataillent contre Murphy et Rollins, mais bon, eux, ils n'en ont plus rien à foutre de la ceinture. Apparemment, les Street Profits, ils débarquent, ils mettent 2-3 pêches et hop, ils sont challengers pour le titre. Écoutez, en avant, moi pour l'instant ça me dit pas plus ce qu'ils essayent de faire avec tout ce beau monde. Alors c'est pas déplaisant à regarder, hein, les matchs sont bons à Raw, hein, c'est plutôt des main events assez efficaces, assez cool à suivre. Ça implique plein de bons catcheurs, et c'est vrai que tu te dis qu'après WrestleMania, quand ça va péter, plein de rivalités fun qui peuvent découler de tout ça. Mais en attendant. Car WrestleMania, moi, j'ai un peu du mal à savoir où on va. Kevin Owens contre Seth Rollins, je suis toujours pas convaincu que ce soit une affiche très WrestleMania. Puis, après avoir vu les clans s'affronter, voir les leaders s'affronter, écoutez, je serais preneur, en tout cas, de savoir ce que vous, chers auditeurs, vous en pensez de cette affaire et de où est-ce qu'on va, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on tourne en rond et que là on se rendait compte qu'on était à court d'idées et du coup on a lâché les Street Profits là-dedans pour se dire tiens allez un peu de nouveauté, un peu de couleur, un peu de rouge et de gobelet. Ouais, je ne sais pas. Il nous reste un segment du coup qu'on a sauté pour parler du main event. Il nous reste un segment Monday Night Raw, et c'est le retour de AJ Styles, et oui, The Phenomenal One, qui arrive avec ses potes OC, Karl Anderson et Luke Gallows, donc ils arrivent tous les trois, petite promo, donc AJ Styles qui dit, il est de retour à Monday Night Raw. C'est vrai que ça faisait un petit moment qu'il était plus là, et c'est vrai que c'est toujours avec des retours comme ça que, parce que quand même, Raw est quand même bien rempli, que c'est fou à quel point le roster est dense. Et donc, AJ Styles qui revient, qui dit qu'est-ce que serait la Road to WrestleMania, la Mania Season sans lui. Donc, il en profite pour pointer le signe de WrestleMania, il est fier de lui. Les Good Brothers qui en profitent pour l'appeler, pour dire que c'est le nouveau Mister WrestleMania, le surnom de Shawn Michaels, évidemment, n'aurait pas manqué. Styles qui en profite pour se faire mousser, puisqu'il a ses copains qui l'appellent Monsieur WrestleMania. Donc d'ailleurs il dit vous avez bien raison les gars, moi je suis la meilleure superstar de n'importe quel roster et de n'importe quel ère. Et je sais que j'ai mes critiques, mais il y a des gens qui disent que je suis pas phénoménal, mais sauf que moi j'en ai rien à foutre et que je vais faire taire mes critiques à Super Showdown, puisqu'on sait que il va affronter Andrade, Bobby Lashley, Eric Rowan, R-Truth et Rusev dans un gauntlet match pour un magnifique trophée créé pour l'occasion, le Wake Trophy. Je ne sais pas, vous regarderez. Il est pris il va dire qu'il va battre tout le monde en Arabie Saoudite, il va faire taire les critiques. et que derrière il affrontera prochain en accentuant bien d'ailleurs hein, sur le next hein, il verra bien ils sont tous de who's next et un peu la catchphrase de Goldberg. C'est vrai que d'ailleurs le public de Washington, enfin d'Everett, a beaucoup réagi à ça. Je sentais qu'il y avait un petit murmure d'excitation dans le public, donc c'est vrai que bon, AJ Styles Goldberg serait-ce l'affiche de WrestleMania. Mais bon, en tout cas, il enchaîne assez vite pour brouiller les pistes. Il dit que bah who's next, d'ailleurs pour WrestleMania, bah, ça pourrait être n'importe qui. Ça pourrait être Sting, ça pourrait être Shawn Michaels, ça pourrait être Taker, ça pourrait être Hulk Hogan, ça pourrait être Razor Ramon, ça pourrait être Diesel, ça pourrait être tout le NWO. Bon, c'est assez surprenant comme teasing. Il enchaîne un peu sur des catchers plus restants. Il dit que ça pourrait être Ricochet d'ailleurs. Hein. Ça pourrait être Little Ricky. Ça pourrait être Brock Lesnar. Ça pourrait être Drew McIntyre. Il enchaîne un petit peu finalement, un petit peu tous ses adversaires potentiels. Et il s'arrête quand même sur Ricochet. Hein. Il dit d'ailleurs Ricochet, c'est très drôle. Hein. Ricky. Personne pense qu'il pourra être champion. Et ce qui fait d'ailleurs venir la musique qui retentit. Ricochet qui arrive avec son micro et qui ne bégaye pas cette semaine. J'en profite hein, pour rendre hommage à Ricochet qui a réussi à entamer sa promo sans bégayer. J'espère que ça aura fait plaisir à Chris, mon cher Chris, qui est grand fan de Ricochet et des promos de ce bel homme. Et donc Ricochet qui arrive et qui demande maintenant au ok, personne pense que je vais pouvoir être champion WWE, mais par contre, tu te demandes pourquoi est-ce que j'ai mérité un title shot, parce que du coup, c'est vrai qu'en effet, AJ Styles a questionné la légitimité de Ricochet pour avoir ce title shot. Et Ricochet qui lui explique hein, qu'il a gagné son title shot. C'est vrai que la question de AJ Styles est un petit peu naïve. Hein. On se demande si pendant ses vacances, il avait la télé, parce que Ricochet a en effet gagné un triple threat à Raw contre Bobby Lashley et Seth Rollins pour gagner ce title shot. Donc il l'a bien mérité. Et Ricochet, et donc avec sa voix la plus convaincante et son regard le plus intense, nous assène qu'il va battre Brock Lesnar et il sera champion. Donc Z aussi forcément se marre, d'ailleurs comme nous tous. Et Ricochet vexé challenge Styles et AJ Styles pour un match. Là il y a Karl Anderson qui prend les devants et qui dit attends AJ Styles je gère, et puis il dit attends oh calme-toi Ricky, calme-toi, t'es pas un good brother, tu mérites pas d'affronter AJ Styles, donc j'accepte le challenge à ta place. Et nous avons un petit match entre Ricochet et Karl Anderson, un petit match qui va durer 7 minutes et qui sera globalement un showcase de l'armada de Ricochet. Même si, très honnêtement, j'ai trouvé le match un peu long et un petit peu trop disputé à mon goût. Karl Anderson est clairement un sous-fifre et un catcheur tag team de AJ Styles. Ricochet est challenger pour dans quelques jours pour le titre suprême contre l'adversaire suprême de la WWE. Il a besoin d'arriver comme une boule de feu à Super Showdown pour qu'on ait... on va pas revenir là-dessus, hein, mais pour qu'on ait ne serait-ce que 0,0001 de chance de pouvoir croire à sa victoire. Le voir galérer pendant 7 minutes contre Karl Anderson avec des grandes phases de domination de Karl Anderson, je pense vraiment pas que ce soit le booking le plus intelligent de l'histoire. Et Ricochet sort pas forcément grandi segment. Qui ne sort pas forcément grandi de ce segment non plus, je pense que c'est cet épisode de Monday Night Raw, puisque je vais faire un mot de la fin solo, hein, vous m'excuserez, mais du coup, mot de la fin solo, avec ma note, mon top et mon flop, et ma note, elle va pas être terrible cette semaine, parce que je crois avoir mis plusieurs 4 consécutifs, voire plus, je vais mettre un 2,25 cette semaine. Je vais même pas aller chercher la moyenne pour la simple et bonne raison que j'ai trouvé cet épisode de Monday Night Raw très, très très fadoche. Les segments n'ont globalement, les segments importants, on va dire, n'ont pas fait progresser grand chose. J'ai trouvé qu'on était, bah, par exemple, Drew McIntyre, on était sur un peu sur une régression du segment de la semaine dernière. Le match, Ricochet qui avait eu une belle victoire contre Bobby Lashley la semaine dernière. Là, on est pareil sur une agression du booking du challenger suprême, au titre suprême. La grande histoire, la méta-storyline avec Seth Rollins, pareil, j'ai l'impression que on n'est peut-être pas sur une régression parce qu'il y a l'arrivée des Seth Profits, mais on patauge un max. Pareil, on n'apprend rien de nouveau, on patauge un petit peu aussi, puisqu'il ne s'est pas passé grand-chose. Becky Lynch, il ne se passe pas grand-chose non plus, elles font monter la sauce, mais bon, j'ai déjà dit ce que je pensais de ce booking un petit peu trop prévisible. Alors certes, il y a eu des bonnes choses, et d'ailleurs, dans ces bonnes choses, j'ai mon top, et mon top que je vais donner, cette semaine à cette affaire Rousseff, Humberto Carrillo, Lashley, Angel Garza, et notamment j'ai envie de le donner à Angel Garza, ce top, parce que je trouve qu'il exploite vraiment bien l'opportunité un petit peu qui est en train d'arriver pour lui. Il a beaucoup de temps d'antenne à Raw, il a du temps de micro qui est précieux. Et il s'en sert bien, il fait bon catch, il développe bien son personnage, ça reste encore de la low card, hein, on va pas se mentir, mais je trouve que, moi j'aime bien les mecs qui, on sait pas pendant combien de temps ça va durer, mais quand ils ont une opportunité, quand ils ont une petite fenêtre de tir, ils y vont à fond. Et Angel Garza, ce qu'il est en train de faire, c'est pas mal, et je trouve que c'est vraiment un moment plaisant, c'est un rendez-vous, on va dire, qui me fait plaisir chaque lundi en ce moment de voir les pérégrinations là, de la petite cohorte mexicaine à Monday Night Raw. Et mon flop, je vais clairement le donner à Natalia, ce serait trop facile, mais Ricochet. Désolé Chris, de tous les segments, on va dire, moyens que j'ai cités, c'est sans doute celui qui compte le plus parce que c'est le challenger quand même pour le titre WWE, et ok, il n'y a pas de suspense, mais faites un effort, quoi. Genre, c'est quand même pas compliqué, faites-le squasher Karl Anderson, faites-lui faire un truc flamboyant, mettez-le en condition pour pas que on se foute de sa gueule avec Z aussi, parce que t'as juste envie de te marrer quand il prend le micro avec sa petite voix et qu'il regarde, il dit « je vais battre Brock Lesnar, nanana ». On a l'impression en effet d'un gamin dans la cour de récré face aux grands, et les grands qui foutent de sa gueule, je lui dis « non, tu rigoles ». Alors si encore il leur avait fermé le clapet derrière en squashant Karl Anderson, je dis pas. C'était sans saveur. Donc ouais, un Raw qui m'a laissé un peu tiédas, hormis cette passe mexicaine et ce segment d'intro avec Randy Orton au début, c'est vrai que j'aurais pu donner mon top aussi là-dessus, c'était un peu fadasse cet épisode, et c'est vrai qu'on sent quand même, je trouve, l'ombre de Super Showdown qui plane et qui bloque un peu toutes ces histoires et qui les empêche de décoller. C'est un petit peu toujours la même chose, malheureusement, avec ces pay-per-view saoudiens. On le sait, on a beau le savoir, on a le droit de l'accepter. Je pense qu'on est clairement dans ce syndrome-là où il va falloir attendre que ça passe pour que ça décolle. Donc c'est le 27 février, c'est jeudi prochain. Encore un Raw avant. On espère un peu plus excitant, il faut que ce Super Showdown passe. C'est l'heure de l'autopromo, chers amis, j'espère que je n'ai pas été trop long et que vous avez quand même apprécié ce petit épisode solo, hein. c'est les aléas de la semaine qu'on peut, mais nul doute que vous retrouverez tous nos podcasts en duo ou en solo sur bah, tout ce que l'Internet comporte de plateformes podcast, hein, iTunes, PodCloud, Spotify, bien évidemment la version vidéo, si vous êtes amateur de petites barres qui bougent sur YouTube, laissez-nous des pouces, des étoiles, des commentaires, on se fera un plaisir de répondre à vos commentaires. N'hésitez pas également à consulter dans la description le lien de notre serveur Discord si vous voulez venir discuter avec nous, parler de catch, parler de la vie, parler de tout, des pay-per-view de toute fédération confondue. On sera également ravis de débattre et de discuter avec vous. Venez et suivez-nous sur les réseaux sociaux avec notre compte Instagram @catchupcdc, notre compte Twitter @catchupcdc et notre page Facebook @catchupcdc également. Ce sont également des supports sur lesquels vous pouvez nous laisser des messages, des questions et on tâchera d'y répondre. Je vous remercie encore d'avoir suivi cet épisode à qui fatalement hein, manquait un petit peu de dynamisme puisque je ne pouvais pas me moquer de Ricky la belle vie avec Chris ou de partir dans des débats endiablés avec Ringside. Mais voilà, écoutez, c'était un plaisir en tout cas de reviewer ce Monday Night Raw en votre compagnie, chers auditeurs, et je vous souhaite d'ores et déjà à tous une très bonne fin de semaine, un bon week-end, et ciao ciao tout le monde. Coupé, 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 coupé.